victoire se mérite. Donne-toi les moyens. Crois en toi. Accrois tes efforts. Positive ton énergie. Maximise ton tonus. Reste éveillé. Reste tout simplement le meilleur.
FM 100, la fréquence leader.
L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. L'heure de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Car pour tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Connectez-vous, très très nombreux, et recevez la délivrance. Recevez la vie.
L'heure de la vérité, c'est tous les lundis de 21h à 22h et tous les mercredis de 10h à 11h. Vous qui aimez la vérité, surtout la vérité publique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
L'heure de la vérité est une présentation de Rodrigue Genji, serviteur du Seigneur Jésus-Christ.
Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, fidèles auditrices, ne touchez plus du tout le bouton de votre poste récepteur. Si vous étiez en train de faire n'importe quoi, prêtez une oreille très très attentive à partir de cet instant, parce que nous allons passer d'agréables moments dans la présence du Seigneur. L'émission, c'est l'heure de la vérité, la radio, c'est la FM 100, Radio Mudumba. L'équipe des productions de cette émission, qui est une émission radiophonique, même si elle en dirait sur Facebook, et composée de Monsieur Marcel Niat Fendi, Monsieur Eric Niat, Madame Ide Karine Chungan, Saint-André Louis de Fela, Yassine Bachou et Monsieur Eve Choupette. C'est la grosse équipe qui vous permet d'écouter cette émission en direct des studios de la FM 100 Radio Mudumba. Et je suis vraiment très très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Où que vous soyez, recevez les sincères et chaleureuses salutations dans le joli nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, je vous annonce que le sujet qui va nous intéresser toujours tout autour de ce grand thème, à savoir rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples de vies transformées par le Seigneur, positivement bien entendu, après avoir expérimenté le plus grand miracle que j'ai nommé la nouvelle naissance. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes entretenus sur le sujet, le plus grand miracle, la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous éloigner du sujet, nous allons tout simplement voir ensemble quelques exemples de vies qui ont été transformés positivement après avoir expérimenté ce grand miracle. Avant de continuer, nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Merci pour ta divine protection. Merci pour tes grâces infinies, tes compassions, tes bontés qui ne sont pas épuisées, qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci pour cet autre rendez-vous que tu nous donnes, de le passer avec toi. Oui, ce rendez-vous que nous avons avec toi, ce merveilleux temps que nous allons passer avec toi. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les grâces que tu vas déverser sur nous. Reçois d'avance toute la gloire et les honneurs qui te sont dus à toi seul. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, je prie. Amen. 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 Installez-vous confortablement. Si c'est possible, ayez un stylo et sur quoi noter, pourquoi pas. Nous allons voir ensemble quelques vies transformées positivement après avoir expérimenté le plus grand miracle. Et je tiens à faire un petit résumé avant de continuer pour mettre les uns et les autres dans le bain. Nous avons vu que depuis l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, le Seigneur avait clairement annoncé à plusieurs reprises que il va faire quelque chose de nouveau dans le monde, dans le cœur de son peuple. Dieu, il était conscient. Malgré le fait qu'il ait donné ses lois, ses commandements, son peuple, les êtres humains que nous sommes, nous n'étions pas capables de pratiquer ces commandements en comptant sur nos forces, en comptant sur notre sagesse. Malgré la bonne volonté que nous pouvons avoir pour faire la volonté de Dieu, pour honorer Dieu, c'est mission impossible. Et la Bible nous dit que Dieu, en nous donnant ses commandements, il connaissait très bien cela et il était en train de préparer quelque chose. Il devait non seulement nous donner ses commandements, plus tard, il va inscrire ses commandements dans nos cœurs, par la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, le Seigneur opère un miracle dans nos cœurs. Il change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Il change nos cœurs durs, rebelles, en un cœur de chair, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Et en ce moment-là, nous pouvons faire la volonté de Dieu, nous pouvons honorer le Seigneur, nous pouvons le servir, nous pouvons l'aimer et faire facilement sa volonté. Parce que nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau. Et la Bible dit qu'en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et la Bible dit que ce miracle-là ne dépend pas de l'homme. L'homme n'est pas capable de faire une telle œuvre dans le cœur de son semblable. Oui, la première naissance, c'est la volonté d'un homme et d'une femme. Mais la nouvelle naissance, oui, la première naissance dépend de l'homme et de la femme. Un père et une mère, mais la nouvelle naissance dépend de Dieu uniquement. Ce que nous lisons dans Jean 1, les versets 12 et 13. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et d'ici là, les fidèles auditeurs et auditrices vont avoir les numéros par lesquels ils pourront réagir si à jamais il y a des préoccupations pour les exprimer par message ou même par appel après l'émission comme beaucoup le font la plupart des temps. Et sachez que la nouvelle naissance est une doctrine venant du Christ. Il nous l'a clairement dit dans Jean 3. Lorsqu'il s'entretenait avec un certain Nicodème, qui était docteur de la loi, qui n'était pas n'importe qui en Israël, et le Seigneur lui a dit, il faut naître de nouveau. Il lui a posé la question, est-ce que je dois entrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Jésus lui a dit, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Et la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à un mouvement religieux. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait de se faire baptiser, même dans l'eau. La nouvelle naissance, c'est tout simplement le changement de cœur, le cœur nouveau que le Seigneur nous donne. Lorsque nous nous tournons vers lui de façon sincère, honnête, nous nous repentons, il voit notre sincérité, il décide que je te fais naître de nouveau. Il te donne son Esprit Saint, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens son enfant, son fils, sa fille. Donc ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec le baptême, même dans l'eau. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans les Saintes Écritures en lisant un certain nombre de choses qui vont nous aider à comprendre que, en réalité, lorsque la nouvelle naissance se produit dans le cœur d'un être humain, il y a forcément un changement. La vie n'est plus pareille. Par exemple, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 verset 34, je cherche à partir d'ici et je lis pour nous tous. Je tiens à signaler que cette émission ne fait pas la publicité d'une religion. Cette émission n'appartient pas à une religion. Je tiens toujours à le rappeler. Parfois, les gens m'envoient les messages en me demandant « Mais quel est le nom de ta religion ?» Non, je ne suis pas ici pour faire la publicité d'une religion. Nous lisons dans Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Je me cherche de lire à partir d'ici pour nous tous. J'ai choisi de lire ce texte exprès. C'est pour nous conduire quelque part. Le Seigneur dit aussi, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est curieux. Le Seigneur ici s'adresse à Pierre. C'est le chef des apôtres que lui-même il a choisi, il a établi. Mais Jésus sait que malgré le fait que Pierre marche avec lui, il voit les miracles, il fait même les miracles, il n'est pas encore converti. Oui. Autrement dit, il n'est pas vraiment né de nouveau. D'ailleurs, ça va se savoir d'un moment à l'autre. Et Pierre lui dit, « Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Voilà la réponse de Pierre à Jésus, son maître. « Seigneur, ce que tu dis là n'a pas de sens parce que moi, pendant que tu dis que lorsque je serai converti, il faut que j'affermisse mes frères, sache que je suis déjà prêt. Je suis prêt à te suivre partout. Même s'il faut mourir avec toi, tu peux compter sur moi. » Verset 34, Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Et Jésus lui dit, « De toutes les façons, Pierre, je ne discute pas avec toi. Tu vas me renier trois fois. » Et Jésus donne déjà même le nombre de fois entre les deux qui avait raison. Si nous lisons le texte complémentaire dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, c'est juste un texte complémentaire. Je me cherche de chercher quelques versets là-bas et je lis à partir d'ici pour nous tous. Écoutez ce qui est écrit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 34 au verset 35. Je lis, il est écrit. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, que cette nuit même avant que le coq ait chanté, tu m'aies régné trois fois. » Verset 35, Pierre lui dit, « Quand même il ne faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point. » Et, soulignons maintenant, tous les disciples diraient la même chose. Ici là maintenant, il y a un élément qui s'ajoute. Ce n'est pas seulement Pierre ici qui dit à Jésus, « Je vais te suivre partout. Même s'il faut mourir, je suis prêt. » Même les disciples vont dire la même chose. Et je suis sûr que quand Pierre disait qu'il ne peut pas régner le Seigneur, et même ses disciples, ils étaient sincères. Surtout Pierre, il aimait vraiment le Seigneur. Sinon, le Seigneur ne devait pas lui poser la question. Si vous lisez dans Jean, à plusieurs reprises, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va clairement dire au Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ça veut dire que Pierre aimait Jésus. Maintenant, nous allons voir ensemble, à partir du verset 69, la suite de l'histoire. Nous sommes toujours dans Matthieu 26. Il est écrit, je lis. À partir du verset 69, cette fois-ci, qu'est-ce que nous trouvons là-bas? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. J'ai raccourci l'histoire, bien entendu. Pierre était assis dehors dans la cour et une servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu dis. » Et étant sorti dans le vestibule, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia encore avec serment en disant, « Je ne connais point cet homme-là. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchaient et dirent à Pierre, « Assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations contre lui-même et à jurer, et en disant, « Je ne connais point cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras régné trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous voyez, voilà Pierre qui régnit son maître à plusieurs reprises, même devant les femmes. Il jure même en disant, « Je ne connais pas cet homme. » Waouh, c'est impressionnant. L'apôtre, choisi par Jésus lui-même, le chef de l'apôtre, qui jure même qu'il ne connaît pas cet homme, alors qu'il venait de se séparer d'avec lui, mais il dit, « Je ne le connais pas. » Il jure. Mais, comme je le disais tantôt, Pierre n'a pas régné Jésus, son maître, parce qu'il ne l'aimait pas. Non, non, pas du tout. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est tout simplement parce que Pierre, il n'avait pas encore expérimenté ce miracle, la nouvelle naissance. Il n'avait pas encore reçu dans son cœur l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il disait, « Seigneur, je ne peux pas te trahir, je ne peux pas te régner », il comptait sur sa sagesse, il comptait sur ses forces. Et ce n'était pas possible. Maintenant, nous allons voir le même Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Entre-temps, quelque chose s'est passé. Et nous allons voir un changement radical dans la vie de ce même Pierre. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Si nous lisons le chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit, « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors, il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. » Et il remplit toute la maison où ils étaient. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà, ici, nous voyons quelque chose se produire. Les disciples du Seigneur sont réunis, et comme le Seigneur l'avait promis, quelque chose se passe. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu avait promis qu'il va nous donner également son esprit. Dans le processus de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est un acteur majeur. C'est lui qui produit dans nos cœurs la nouvelle naissance. Parce que désormais, on a l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà les disciples qui reçoivent le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ce même jour, on va voir l'apôtre Pierre complètement transformé. J'ai raccourci l'histoire. Pierre va se lever et il va faire un grand discours. Il va prendre la parole au nom de tous les autres parce que les gens vont accourir et commencer à s'interroger par rapport à ce qui se passe. Et ils sont tellement convaincus par le discours de Pierre qu'ils ont le cœur touché. C'est ce que nous lisons au verset 37. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés dans le cœur et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Et Pierre les dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on voit maintenant Pierre qui prend sa place de leader ce jour. Et on peut remarquer que entre-temps, quelque chose s'est passé dans sa vie. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous pouvons lire ceci. Actes 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme important afin de savoir par qui il était guéri. En fait, j'ai raccourci l'histoire dans son contexte. Pierre et les autres ont été arrêtés, particulièrement Pierre et Jean, et jetés en prison parce qu'ils ont fait un miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les leaders religieux de cette époque n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas que le nom de Jésus soit proclamé. On les menace, on les fouette, on les jette même en prison. Continuons notre lecture. Nous sommes toujours dans Actes 4. Le verset 10 nous dit quoi? Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez et qui était faite la principale pierre de l'angle. Verset 12 maintenant, Pierre va dire quelque chose de sublime, de majestueux. Le verset 12 nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Waouh! Pendant qu'on les menace, on les empêche de parler aux gens au nom de Jésus, il est catégorique. Il dit, sachez que sous le ciel, pas seulement en Israël, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui donne le salut, c'est Jésus. Donc, pour dire, ce que vous dites ne marchera pas. Nous empêcher de parler de Jésus, désormais, il n'est pas question. Parce que c'est en lui qu'il y a le salut. C'est par lui que nous sommes sauvés. Maintenant, le verset 13. Lisons ce que le verset 13 de Acte 4 nous dit. Tous ces leaders religieux, tous ces docteurs de la loi, voici ce que nous lisons. Voyant la hardiesse de Pierre et des gens, et sachant que c'était des hommes sans lettres, sans intelligence et du commun de peuple, ils étaient dans l'étonnement. Et ils reconnaissaient qu'il avait été avec Jésus. Amen. La Bible nous dit que tous ces érudits, ces intellectuels, ces leaders religieux, voyant les hardiesse, voyant leur confiance, leur assurance, ils étaient étonnés. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas tellement instruits comme eux, mais qui parlaient avec beaucoup de détermination, beaucoup d'assurance, beaucoup d'adresse. La seule chose qu'ils pouvaient dire concernant ces gens, c'est que nous les avons vus avec Jésus. Ces gens-là ont marché avec Jésus. Donc c'est Jésus qui fait la différence. Alléluia. Amen. Nous voyons que le Pierre qui est ici, ce n'est plus le même Pierre qui a régné son maître, même devant les femmes. C'est un autre Pierre. C'est un autre Jean. Transformé positivement à partir de l'intérieur. Ils ont une certaine hardiesse. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils peuvent proclamer la bonne nouvelle avec autorité, avec puissance. Et avec beaucoup d'assurance, sans se laisser intimider par qui ni par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, quelque chose s'est passé. Le plus grand miracle est passé par là. La nouvelle naissance. Voilà déjà un exemple concret que nous sommes en train de voir ici. Les disciples du Seigneur qui avaient pris la fuite lorsqu'on est venu arrêter Jésus, qui l'ont même renié. On voit les mêmes disciples ici en train de défendre Jésus et la bonne nouvelle. Et ce qui est curieux, c'est que ici Jésus n'était même plus sur terre. Jésus était déjà enlevé. Alors que lorsqu'il régnait Jésus, Jésus était encore même sur terre. Il le voyait physiquement. Mais ils l'ont quand même régné parce que le cœur n'était pas encore changé. Maintenant, Jésus n'est même plus là. Mais c'est en ce moment qu'ils sont encore même plus zélés. Sans le mettre physiquement sur terre. Mais dans le cœur, il y avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et ce que nous lisons là, c'est ce qui se passe normalement, ou bien ce qui devrait se passer normalement dans la vie de quiconque expérimente ce grand miracle de Dieu, la nouvelle naissance. Parce que c'est le même Dieu que nous servons, c'est le même maître Jésus. Entre temps, Jésus n'a pas changé, c'est le même sauveur, le même nom qui nous donne le salut sous le ciel. Si vous venez de vous connecter à l'instant, soyez la bienvenue. Comme promis, je donne ce numéro aux auditeurs et auditrices. On ne sait jamais, ça peut vous être utile, même après l'émission. Le 696-36-25-40. 696-36-25-40. Ou le 677-61-93-77. 677-61-93-77. Ou le 696-36-25-40. C'est pour les auditeurs et les auditrices, naturellement. J'ai aussi un site internet, www.pasteurrodrigue.com. www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site, vous allez y retrouver des choses édifiantes que vous pouvez télécharger gratuitement. J'ai deux pages Facebook, Rodrigue Genji, c'est l'une des pages. Et la deuxième page, c'est Jésus-Christ est l'ultime solution. Visitez ces pages Facebook, vous allez y retrouver des choses édifiantes que vous pouvez voir, particulièrement même les émissions précédentes en replay, comme cette émission d'ailleurs, qui parle la grâce de Dieu, et sur Facebook, et va rester sur Facebook même après le direct. Nous restons dans notre Acte des Apôtres, chapitre 4. Si vous venez de vous joindre à l'instant, nous sommes en train de parler de ces changements positifs que nous pouvons voir dans la vie d'un être humain lorsque le plus grand miracle s'est produit dans sa vie, dans son cœur. Et nous sommes en train de voir quelques exemples de façon concrète dans les Saintes Écritures, la Bible. Dans Acte 4, verset 17, nous pouvons lire ceci. « Afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, » ça c'est ce que les leaders religieux de l'époque, les adversaires de Jésus, disent. « Afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des grandes menaces de parler à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant, verset 18, et les ayant appelés, ils les défendurent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Maintenant, le verset 19, de façon magistrale, voici la réponse de Pierre et de Jean. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Waouh! Pendant que les leaders religieux de cette époque, les adversaires de l'évangile, les ennemis de Jésus, sont en train de les menacer. Nous ne voulons plus que vous parlez à qui que ce soit de ce nom-là de Jésus. Ils répondent, jugez vous-même. Est-ce que nous allons vous obéir au lieu d'obéir plutôt à Dieu? Nous ne pouvons pas faire ce que vous êtes en train de dire. Nous allons obéir plutôt à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Voilà les gens qui ont fui lorsqu'on a essayé d'arrêter les maîtres. Voilà Pierre qui a régné Jésus, qui regarde droit dans les yeux les adversaires de l'évangile de cette époque. Oui, les ennemis de l'évangile de cette époque. Il a dit, nous allons seulement parler de Jésus. Nous n'allons que prêcher l'évangile. Nous allons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Donc ce que vous dites là, n'y pensez même pas. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. Si nous restons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 27. Je lis quelque chose là-bas rapidement, à partir d'ici pour nous tous. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 27, il est écrit quoi? Entre-temps, on a arrêté même les disciples, on les a jetés en prison, on les torture, on les fouette. Et les ayant amenés, ils les présentaient au Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea en disant, verset 28, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ?» Verset 29, « Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà les gens qui sont en train d'être torturés. Ils sont même emprisonnés à cause de Jésus. On les répète encore et encore. N'avons-nous pas expressément interdit d'enseigner encore quelque chose au nom de Jésus? La réponse est claire et nette. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Seigneur a dit qu'il faut prêcher la bonne nouvelle, même jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes prêts à mourir en prison s'il le faut pour obéir à Dieu. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle soit proclamée sur tous les coins du monde. Il faut que tout le monde entende la bonne nouvelle. Il faut que tout le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir. Si vous lisez la suite, les dieux de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. D'ailleurs, les apôtres commencent à dire que vous avez fait mourir Jésus, c'est vous qui êtes le criminel parce que vous avez tué Jésus. Mais Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission du péché. Et maintenant, le verset 32, et nous qui sommes témoins de ces choses, aussi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ici, l'apôtre Pierre reconnaît que ils ont reçu le Saint-Esprit. Et cette promesse-là est valable pour tout le monde. Toute personne qui se tourne vers le Seigneur reçoit le Saint-Esprit et naît de nouveau et n'est plus la même personne. Voilà le pourquoi il pouvait défendre la bonne nouvelle désormais. Voilà le pourquoi il pouvait continuer de prêcher la bonne parole, l'évangile du salut authentique au nom du Seigneur Jésus, malgré les intimidations, malgré les menaces. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons rester dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Il s'agit ici d'Étienne, le premier martyr chrétien. Oui, le premier chrétien à être tué sur terre à cause de l'évangile. Je lis rapidement à partir d'ici pour nous tous. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. J'ai raccourci l'histoire, bien entendu, faute de temps. Vous pouvez lire tout le texte pour avoir tous les détails. À partir du verset 54, il est écrit, « En entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage en les cœurs et ils grinçaient les dents contre Étienne. » Verset 55. « Mais, remplis du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu. » Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Alors eux, poussant des grands cris, ils se bouchèrent les oreilles. Et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et ils le traînèrent hors de la vie, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ici, on est en train de tuer Étienne, disciple de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle d'un certain Saul qui était aussi là. Pendant qu'on tuait ce disciple de Jésus, Étienne. Saul qui va devenir plus tard Paul. Ça veut dire que Paul, nous allons le voir également, si plaît à Dieu. C'était un élément dangereux avant que Jésus-Christ n'accomplisse le plus grand miracle dans sa vie. Et pendant qu'il lapidait Étienne, nous sommes au verset 59, Il priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne les impute point ces péchés. » Ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saul ou Paul plus tard avait consenti à sa mort. Donc on voit ici que la Bible parle d'un certain Saul qui va devenir Paul plus tard, ou l'apôtre Paul, qui était là et qui était d'accord que l'on tue cet homme au nom de Jésus, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Nous lisons un certain nombre de choses ici, entre autres. La Bible nous dit que pendant que on était en train de lapider, c'est-à-dire de le tuer en lui jetant les pierres, Étienne, il priait. Et dans sa prière, il a dit un certain nombre de choses. Entre autres, il dit, « Seigneur, pardonne-les. Ne les impute pas ce péché. » Wow! Quelqu'un qu'on est en train de tuer, en temps normal, il devait maudire tous ses bourreaux. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qu'on est en train de tuer et qui est en train de bénir les bourreaux. On voit ici que Étienne, ayant reçu l'Esprit de Dieu, étant né de nouveau, il était comme son maître, Jésus-Christ. Et Jésus avait dit que tout disciple accompli sera comme le maître. Souvenons-nous, quand nous lisons dans les évangiles, c'est la même prière que Jésus-Christ a faite. Lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'on l'humiliait, on se moquait de lui, on l'insultait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même prière que Étienne fait ici. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons les êtres humains faire de telles prières, alors qu'ils sont en train de subir une injustice. Il ne meurt pas parce qu'il a commis un crime. Il ne meurt pas parce qu'il a pris la femme de quelqu'un. Il ne meurt pas parce qu'il a volé, mais parce qu'il a prêché l'évangile. Il n'a commis aucun crime digne de mort. Mais il dit, Seigneur, pardonne-les, ne les impute pas ce péché. Pourquoi? C'est parce qu'il avait un cœur nouveau. Un homme ordinaire ne peut pas faire ce genre de prière. Un homme ordinaire va maudire ses bourreaux de toutes ses forces avant de mourir. Mais il est en train de les bénir avant de mourir. Alléluia et gloire à Dieu. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous avez expérimenté ce grand miracle, même dans votre mort, il y aura la différence. Oui! Les gens qui ont le Seigneur ne meurent pas comme les autres. Ils meurent dans la paix. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils soient nés de nouveau, ils sont du royaume des cieux. Comme Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut ni entrer, ni voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, tu peux voir et tu dois entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que les gens qui sont nés de nouveau, les born again, appartiennent au royaume des cieux. Babentina zibouboum, cela. Ils sont en train de parler comme ça en passant quelques mots en banganté. Tu as un cœur nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu. Voilà le pourquoi tu es du royaume des cieux. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'avant qu'il ne meure, il voyait déjà le Maître Jésus en train de l'attendre, de l'accueillir. Alléluia. Voilà le pourquoi il n'est pas mort comme les sorciers, les méchants en s'agitant. Parce qu'il va souffrir dans un lieu de tourment? Non, il meurt en paix parce qu'il sait là où il va. Parce qu'il est né de nouveau, il est du royaume des cieux. Il sait qu'il appartient au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas après sa prière que les pasteurs, les prêtres, les imams vont venir grimacer, faire les prières que Seigneur reçoit-le dans ton royaume. Non, ça c'est de la comédie. Lui, pendant qu'il mourait, il savait déjà là où il partait. Parce qu'il avait accepté Jésus-Christ pendant qu'il était encore en vie. Il était né de nouveau pendant qu'il était encore en vie. Et cela peut être le partage de tout le monde. Alléluia. Donc c'est pour vous encourager. Si vous voulez avoir une mort paisible, peu importe la manière dont vous allez mourir, il faut naître de nouveau. Il faut laisser le Seigneur accomplir ce grand miracle dans votre vie. La nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance. Soyez la bienvenue. Si vous venez de vous connecter à l'instant, sommes en train de nous intéresser comme cela à quelques exemples de façon concrète, des personnes nées de nouveau, qui ont expérimenté vraiment la nouvelle naissance, nous pouvons voir les changements qui se sont opérés dans leur vie de façon palpable. nous allons nous intéresser maintenant à ce personnage, Saul. Et plus tard, son nom sera transformé en Paul. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, par exemple, qu'est-ce que nous lisons aux deux premiers versets de Actes 9? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'adressant au souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de cette doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ici, Saul, il est prêt à aller même dans les villes étrangères, dans les pays étrangers, attraper les disciples du Seigneur Jésus. Il voulait poursuivre partout sur la surface de la terre. Donc, il était vraiment déterminé. Il voulait en finir avec les disciples du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 8 et 9, lui-même, il va nous dire quelque chose là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 et 9. Qu'est-ce que nous lisons? Et après tous, Jésus m'est apparu à moi, aussi comme à un avorton. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Entre-temps, il est devenu ici apôtre. Et il est Paul, il n'est plus Saul. Et lui-même, il confesse de sa propre bouche que normalement, il ne méritait même pas d'être apôtre à cause de ce qu'il a fait par le passé. Alors qu'il pensait servir Dieu, il était docteur de la loi, pharisien. Il dit qu'il a persécuté l'église de Dieu. Et lorsqu'il fallait tuer les disciples du Seigneur, il était devant pour donner sa caution, pour encourager. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, qu'est-ce que nous lisons là-bas? 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, je lis. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Waouh! Voilà ce que l'apôtre Paul dit de lui-même. Que avant, autrefois, auparavant, quand il n'était pas encore né de nouveau, alors qu'il était religieux, il était pharisien, docteur de la loi, il était un blasphémateur, il était un persécuteur, il était violent. Waouh! Il était violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme qui a persécuté l'église du Seigneur, qui était violent, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Dans Philippiens, nous pouvons lire un certain nombre de choses au chapitre 3. C'est tout l'apôtre Paul qui nous parle de lui-même. Nous pouvons lire ceci. Je lis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision. Nous qui servons Dieu en esprit. Autrefois, ils ne servaient pas Dieu en esprit, mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, quoique je puisse moi aussi me confier en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, circoncis le huitième jour. Il parle maintenant de son passé, lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Donc lui-même, il dit qu'il était un bon pharisien. Et n'était pas pharisien qui voulait en Israël, qui pouvait. Quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Maintenant, il dit que quoi? Quand il regarde son passé et le présent, c'est le jour et la nuit. Toutes ces choses qu'autrefois, pour lui, c'était comme un gain, maintenant, il voit ça comme de la boue. Oui. Bien plus, je regarde toutes ces choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses. Et je les regarde comme des ordures, afin de gagner Christ. Amen. Donc maintenant son passé, il dit que son passé ce sont des ordures. Malgré tout ce qu'il était, malgré même ce qu'il a hérité de façon naturelle, en tant que un juif, il avait même des droits de façon naturelle. Il avait une position sociale enviable. Il avait des titres dans la société, mais il dit qu'il regarde tout cela comme des ordures, comme de la boue. Parce que, en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que malgré le fait qu'il était juif, docteur de la loi, pharisien, ça ne l'a pas empêché d'être violent, d'être persécuteur, d'être blasphémateur. Mais en Jésus, les choses ont changé. Voilà pourquoi lui-même il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23, verset 34. Il s'agit de Paul. Après sa conversion, avec Silas, on les arrête. À cause de l'évangile, on les met en prison, on les fouette, on les enchaîne même. Et la Bible nous dit que la nuit, ils chantaient des cantiques dans une prison, avec les blessures, enchaînés, en train de chanter. Ce n'est pas tous les jours que nous lisons de telles choses. Dans une prison, la prison n'est pas un lieu pour chanter les louanges et les cantiques à Dieu. Surtout les gens qui sont arrêtés, fouettés, blessés, enchaînés injustement. Mais ils sont en train de chanter. Et la Bible nous dit que les prisonniers les entendaient chanter. C'était du jamais vu dans une prison. Les gens qui chantent, parce que c'est un lieu de tourments, c'est un lieu de plaintes, de murmures, de regrets. La plupart des temps, lorsqu'on va en prison, on voit les gens se plaindre. Oh, je n'ai pas fait ci, ça, mais malgré, les gens se plaignent. Même ceux qui sont coupables se plaignent d'une manière ou de l'autre. Mais voilà les gens qui étaient vraiment innocents, qui chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et si vous lisez la suite, finalement, Dieu va faire un miracle dans cette prison. Et même le gardien de prison va se convertir. Parce que lui-même, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-ci ont quelque chose que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être comme vous? Et la réponse était simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le gardien de prison va croire, lui et sa famille. Et ils vont même se faire baptiser la nuit. Et il va désormais prendre les apôtres, non plus comme des prisonniers, mais comme des frères et sœurs. Il va s'occuper de les donner à manger. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et avant de finir pour aujourd'hui, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 14, je cherche à partir d'ici, je lis nous tous. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi. Quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham se répandue sur les non-juifs par Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Amen. Ici, là, la Bible dit que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous êtes des nouvelles créatures, vous n'êtes plus des personnes maudites. Oui, vous n'êtes plus des personnes maudites parce que Jésus a déjà porté vos malédictions sur la croix. En Jésus, on n'est plus maudit, on est plutôt béni. La Bible jusqu'à dire que même la bénédiction d'Abraham devient le partage de cette personne. Même si tu n'es pas juif, tu es une personne bénie en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on devient vraiment des nouvelles créatures, qu'on devient des personnes bénies. Oui, en Jésus, on est déjà béni. On n'a plus besoin de poursuivre certaines bénédictions quelque part parce que c'est en Jésus-Christ que ça se passe. Et ça aussi, la Bible nous parle même de l'esprit que l'on reçoit. Tout ça va ensemble. La nouvelle naissance, l'esprit que l'on reçoit, même la bénédiction que l'on reçoit en Jésus-Christ, tout cela marche ensemble. Donc si vous voulez avoir une vie bénie sur cette terre, ouvrez tout simplement vos cœurs, faites confiance au Seigneur, recevez-le par la foi, soyez nés de nouveau, recevez son esprit, soyez de nouvelles créatures, que les choses anciennes passent, que toutes choses deviennent nouvelles, et que toutes les malédictions qu'il y avait dans vos vies soient balayées et soient remplacées par les bénédictions du Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans ta présence au travers de ta très sainte et bonne parole. Merci pour ces multitudes qui ont écouté avec beaucoup d'attention. Bénis ta parole, tu ne laisses jamais ta parole sortir en vain. Que le but s'accomplisse dans le but de tes enfants, de tes créatures. Seigneur, qu'en toi, toutes ces personnes qui se tournent vraiment vers toi, que en toi ces personnes soient des nouvelles créatures, que les choses anciennes passent de façon concrète et palpable, que l'on voit un changement radical et positif dans leur vie, et que les bénédictions infinies que nous avons en toi, lorsque nous te recevons, lorsque nous t'acceptons, ces bénédictions qui remplacent les malédictions que nous avons accumulées depuis notre existence, que cela soit le partage de ces multitudes qui te font confiance. Je prie au nom de Jésus-Christ, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver pour une autre émission. Vraiment, d'ici là, que dans vos vies, les choses anciennes passent, que toutes choses deviennent nouvelles, au nom de notre Maître, de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. À bientôt et restez béni. Amen, amen, amen.
Venez d'écouter l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde. Pour tout contact, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières, sentez-vous libre d'appeler ou d'envoyer vos messages à ces deux numéro, le 600 96 36 25 40, et le 600 77 61 93 77, 600 96 36 25 40, et le 600 77 61 93 77. Vous pouvez aussi aller sur le site internet www.pasteurrodrigue.com et télécharger gratuitement tout ce qui vous intéresse. www.pasteurrodrigue.com. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
puissance, ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, et si le mot me manque, mon cœur ne peut se t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour la joie du récit.